Je m'appelle Côme, je suis élève en classe de 4e au collège Jules Romain de Saint-Avertin. Les élèves de la classe de 4e B ont préparé une émission radio sur une association, l'AFM Téléthon. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Alberto, coordinateur départemental de l'AFM Téléthon, Mme Cola et M. Ducrot, membres de la délégation 37 et qui témoigneront en tant que personnes atteintes de maladies génétiques rares. Notre interview portera sur l'AFM Téléthon, l'organisation du Téléthon, les maladies rares et les avancées de la recherche. Monsieur Alberto, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'AFM et à quel mot correspondent les trois lettres AFM ?
Bonjour. L'AFM, ça veut dire Association française contre les myopathies.
En tant que coordinateur AFM, quelle est votre mission ?
Alors, en tant que coordinateur, je suis responsable de la coordination. Et la coordination, c'est une équipe de bénévoles, on est une quinzaine, qui est chargée sur le département de valider toutes les animations qui se font pour le Téléthon. Au moment du mois de décembre, personne ne peut faire une animation sans avoir l'autorisation de la coordination.
Depuis combien de temps êtes-vous bénévole au sein de l'AFM ?
Alors, bénévole au sein de l'AFM, ça fait 28 ans que je suis bénévole, mais j'ai été d'abord, pendant 18 ans, j'ai été animateur à Jouer-les-Tours, où j'organisais des animations. Après, je suis rentré à la coordination, et ça fait 3 ans que je suis coordinateur.
Quand l'AFM a-t-elle été créée ?
Alors, l'AFM, elle a été créée en 1958. C'est une association qui a été créée en 1958 par des parents de malades.
Par qui a-t-elle été créée et pour quelles raisons ?
Alors c'est une famille, la famille de Kepler, qui avait 4 enfants qui étaient atteints d'une myopathie. Et c'est une maladie, quand ils allaient voir le médecin en fait leur disait, leur seul diagnostic, c'était on ne peut rien faire pour lui, il faut le laisser tranquille, laissez-le. Et ça veut dire que l'espérance de vie des enfants était de 14-15 ans au maximum. Et ses parents ont refusé ce diagnostic. Ils ont dit c'est pas possible, on peut pas accepter ça pour nos enfants. Et ils ont créé une association en se promettant de trouver une solution pour guérir cette maladie.
Quel est le but de l'AFM et quelles sont ses missions ?
Alors le but de l'AFM Téléthon, les missions de l'AFM Téléthon, c'est guérir et aider. Et donc c'est à partir de là, c'est collecter de l'argent pour financer de la recherche et pour financer de l'aide pour les malades.
N'agit-elle qu'en France ?
Alors, l'AFM Téléthon, c'est une association purement française. Alors, il y a aussi des animations qui se font à l'étranger, mais qui sont organisées par des Français qui vivent à l'étranger. Il y en a en Angleterre, enfin dans plein de pays, où des Français qui sont expatriés organisent des animations pour le Téléthon.
Y a-t-il d'autres associations dans ce type en Europe et dans le monde ?
Alors, il y a une autre association qui est en Italie, qui fait un téléthon aussi, qui travaille aussi pour les maladies rares. Et autrement, il existe des associations du même type, mais qui sont dédiées à d'autres maladies qui sont plus spécifiques. Par exemple, il y a pour ELA, où c'est Zidane qui est le porte-parole d'ELA. Il y a pour la mucoviscidose, donc je ne sais pas si vous connaissez le chanteur, j'ai perdu son nom, Grégory Lemarchal. Il y a plusieurs associations, mais qui en général sont spécialisées sur une maladie.
Nous interrompons notre interview pour un court intermède musical.
Le Téléthon, c'est une opération de l'AFM Téléthon qui est menée par l'AFM Téléthon tous les ans. Et c'est une opération qui est chargée de collecter de l'argent pour la recherche et pour l'aide aux familles.
Qui a créé le Téléthon et en quelle année ?
Alors le Téléthon, il a été créé en 86. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1985, il y a un chercheur à Tours, ça se passait à Tours, Grégory de Monaco, qui a dit « J'ai découvert le gène de la myopathie de Duchenne, qui était la maladie qui est à l'origine de la création de l'AFM. » Et à partir de là, les parents se sont dit, c'est pas possible. Bon, maintenant qu'on connaît le gène, il faut qu'on arrive à trouver. Et ses parents, les parents qui avaient créé, et puis d'autres qui s'étaient joints à eux, ont décidé de créer, le Téléthon. Il y avait une émission qui s'appelait... Je ne sais pas si elle ne s'appelait pas le Téléthon, je ne pense pas, mais qui existe aux États-Unis. Ils sont allés voir, ce qui se passait aux États-Unis. Ils ont ramené l'idée. Et en 1986, ils ont lancé le premier Téléthon à la télévision.
Comment ce mot a-t-il été créé ?
Alors, Téléthon, je suppose que télé, ça veut dire télévision. Et ton, ça vient d'une course que vous connaissez sûrement, que vous pratiquez peut-être pas encore, mais que vous allez pratiquer peut-être un jour, le marathon. Donc c'est une compilation de télé et télévision et marathon.
Par quelle chaîne de télévision le Téléthon a-t-il été organisé ?
Alors la Téléthon, au départ, c'était France 2. C'était France 2 et maintenant c'est toutes les chaînes de France Télévisions.
À quelle période de l'année se déroule le Téléthon ?
Ah, il a toujours lieu le vendredi et le samedi, le premier vendredi du mois de décembre. Toujours.
Pourquoi le mois de décembre a-t-il été choisi ?
Parce qu'en fait, le mois de décembre, c'est la période des fêtes. On rentre en approche de Noël, c'est la période des fêtes. Et c'est une période où on a constaté que les Français étaient le plus généreux. Pour avoir fait des essais dans d'autres, mais pas la FM Téléthon, mais d'autres associations qui ont fait affaire à d'autres périodes, on s'aperçoit que c'est au mois de décembre que ça marche le mieux, qu'on collecte le plus d'argent.
Combien de temps dure l'émission et pourquoi cette durée ?
Ça dure longtemps puisque c'est un marathon de télévision, donc ça dure 30 heures. Ça commence le vendredi soir à 19h et ça se finit 30 heures plus tard, donc le samedi, je ne sais plus à quelle heure ça fait, si vous rajoutez, si on rate ça. Mais ça fait pendant 30 heures. Et pourquoi ? Parce que ça permet de couvrir deux soirées à la télévision, en fait, le vendredi soir et le samedi soir.
Quelle somme est récoltée chaque année par le Téléthon ?
Ça dépend de la générosité des Français, donc c'est très variable. C'est très variable. Ça, l'année dernière, on a collecté 86 millions, j'ai le chiffre, je ne sais plus exactement, 85 933 166 euros, donc presque 86 millions d'euros.
Comment la FM aide-t-elle les malades et leurs familles ?
Ben, les malades et leurs familles, les aide avec les aidant financièrement dans certains projets, c'est-à-dire par exemple pour l'achat d'un fauteuil, pour des aménagements dans la maison, pour différentes choses. Il y a aussi des relais repos, et puis il y a aussi des techniciens et des techniciennes qui sont chargées de l'accompagnement des familles dans leurs tâches de tous les jours, pas pour faire les ménages ou quoi, mais pour les aider quand il y a des dossiers à faire, etc. C'est une aide morale, plus un soutien moral qui n'est pas forcément financier, qui est par l'apport de matériel.
Que sont les villages repos familles ? Combien en a-t-il et à qui sont-ils destinés ?
Alors, il y en a 5. Et les villages repos familles, ce sont des villages dans lesquels les enfants et leurs parents peuvent venir, puisqu'en fait, souvent, il y a la maladie fait que les parents doivent être présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 auprès du malade. Et c'est très fatigant. Et donc, les villages repos-famille permettent de regrouper ces personnes dans un site où il y a une équipe médicale qui va les accompagner, qui va pouvoir soulager. Ça va permettre aux parents, éventuellement, pour une journée, d'aller se promener ou d'aller au restaurant, des choses qu'ils ne peuvent pas faire forcément dans le quotidien.
Les personnes atteintes de maladies rares peuvent-elles vivre comme tout le monde ?
Ça dépend. En fait, ça dépend essentiellement du handicap. Il y en a qui peuvent vivre pratiquement comme tout le monde, on ne va pas le détecter. Puis il y en a d'autres qui sont plus handicapés. Et c'est très variable en fonction de la maladie et de l'évolution de la maladie.
Il y a une loi qui a été votée en 2005. Qu'a-t-elle apporté aux personnes porteuses de handicap ?
Alors, elle aurait dû apporter. En 2005, c'est une loi qui permet à tout élève d'aller dans les établissements scolaires, qui permettrait normalement à tous les enfants qui sont atteints d'une maladie d'accéder dans l'école de quartier. Ça, c'est la théorie, mais dans les faits, en fait, c'est pas toujours possible parce que Ben, les aménagements ne sont pas faits s'il n'y a pas d'ascenseur dans l'établissement, ou s'il y a des marches, etc. Ou s'il y a pas, il y a des personnes qui ont besoin des malades qui ont besoin d'appui et s'il y a pas. Mais normalement, ça doit permettre normalement à tout élève, à tout enfant handicapé de pouvoir ou malade de pouvoir aller dans l'école de quartier.
Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour aider les personnes?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire?
Bah, je ne sais pas ça.
Ben déjà, dans l'école, si tu as des copains qui sont handicapés ou quelqu'un qui est handicapé, ben faut l'aider, faut être attentif à eux parce que c'est des personnes qui ont souvent des difficultés. C'est d'être à leur écoute, c'est d'être très attentif parce que ils ne le montrent pas forcément, mais ils ont besoin d'aide et ils n'ont même pas forcément envie non plus de le demander. Et puis après, il y a une autre chose. Après, c'est en dehors de l'aide directement aux malades, c'est de participer au Téléthon, c'est-à-dire de collecter de l'argent ou d'organiser quelque chose pour collecter de l'argent pour le Téléthon.
Quelle procédure doit-on suivre pour mettre en place une récolte de fonds pour le Téléthon au collège ?
Au collège, il faut déjà avoir une idée. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui ferait que les gens me donneraient de l'argent pour l'animation, pour le Téléthon? Donc là, ça peut être une course du muscle. Une course du muscle, c'est les gens séparés pour faire une course à pied. On peut faire organiser une chorale. On peut organiser une chorale dans le collège s'il y a une chorale. On peut vendre des viennoiseries. Essayer d'aller voir les commerçants du coin qui donnent des viennoiseries qu'on vend à la récréation au profit du Téléthon. Toutes les idées sont bonnes à partir du moment où ça permet de récupérer un petit peu d'argent. Donc ça, une fois qu'on a l'idée, ben il faut que ce soit accrédité, il faut avoir l'autorisation de la coordination, donc mon autorisation. Et pour ça, il y a un contrat qui est à signer. Le contrat ne peut être signé que par un adulte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, au niveau du collège, ton professeur ou le principal, qui valide le contrat et en fait qui signe le contrat pour vous. Et c'est vous qui mettez la main à la pâte. Et puis qui organisait l'animation. Et moi, je vous mets au défi d'en organiser une pour cette année. Vous serez en troisième l'année prochaine, au mois de décembre. Donc au mois de décembre, vous organisez une animation Téléthon. Vous relevez le défi? Oui, je vois des oui de la tête, alors c'est bien.
Combien de maladies rares existent-ils ?
Combien de maladies rares ? Il en existe à peu près, on en diagnostique 6 à 8 000. Mais on ne sait pas exactement, il y en a peut-être plus, mais aujourd'hui on estime qu'il y en a entre 6 et 8 000 qui sont connues. Et parmi elles, il y en a 200 qui sont des maladies neuromusculaires.
Parmi ces maladies rares, combien sont génétiques ?
Il y en a à peu près 80% qui sont génétiques, qui sont des génétiques.
Combien de personnes sont touchées par des maladies rares en Europe et en France?
C'est impressionnant. Si je veux dire, on pense que rare, ça veut dire pas souvent. Et en fait, si on compte, on a 3 500 000 personnes à peu près qui sont atteintes de maladies rares en France. Et il y en a 35 millions qui sont en Europe. Il faut plus en Europe. Donc ça fait pratiquement une personne sur 20 qui est atteinte d'une maladie rare. Ça veut dire que statistiquement, dans cette salle, il y a une personne qui est atteinte d'une maladie rare.
Dans quelle classe se déclare-t-elle ?
Alors c'est très variable. Il y en a qui se déclarent très tôt, dès la naissance. Il y en a d'autres qui se déclarent beaucoup plus tard. Il y en a d'autres qui se déclarent à l'âge de 60 ans et ça, c'est très variable suivant la maladie et suivant les personnes. La même maladie peut se déclarer plus ou moins tôt, mais là, à la limite, tout à l'heure, Franck et Corinne pourront vous parler de leur cas, de savoir, pourront vous dire à quel moment ça s'est déclaré. Mais c'est très variable, ça dépend de la maladie surtout.
Est-ce qu'il faut que beaucoup de gènes aient un défaut pour être atteint d'une maladie génétique ?
Ah non, il suffit d'un seul gène.
Une maladie génétique est-elle héréditaire ?
Une maladie génétique est pas forcément héréditaire, mais par exemple, il y a la trisomie 21, par exemple, est une maladie génétique, mais qui n'est pas héréditaire.
Quelle différence y a-t-il entre une maladie neuromusculaire et une myopathie ?
Alors, une maladie neuromusculaire, c'est une maladie qui touche le muscle et sa commande nerveuse. Et une myopathie, c'est une maladie du muscle. Donc une myopathie, il y en a différentes sortes, mais une myopathie est forcément une maladie neuromusculaire, alors qu'une maladie neuromusculaire n'est pas forcément une myopathie. Il y a différents types de maladies qui touchent les muscles et le système nerveux.
Est-ce que les maladies génétiques sont toutes visibles ?
Non. Non, il y en a qui ne sont pas visibles. Elles peuvent être... C'est très variable.
Peuvent-elles apparaître à n'importe quel âge ?
Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut apparaître très tôt et ça peut apparaître à 60 ans, ça peut apparaître à l'âge, ça dépend de la maladie, ça dépend de la personne. Dans la même famille, même, il peut y avoir des déclarations qui sont plus ou moins... Pour le même gène, dans la même famille, la même maladie dans la même famille, ça peut être à des âges différents. C'est très variable.
Quelles sont les maladies rares les plus répandues ?
La myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, qui est celle donc à l'origine de la FM. Après, il y a la maladie de Charcot et la maladie de Steiner. C'est parmi les plus connus et les plus...
Combien y a-t-il de cellules dans le corps humain ?
Bonne question. Combien y en a ? 60 000 milliards de cellules. En fait, c'est énorme. Et dans chaque cellule, il y a de l'ADN. Si on mettait l'ADN qu'il y a dans une cellule, c'est tout petit, mais si on arrivait à allonger l'ADN, on aurait un filament de 2 mètres de long. Et si on mettait bout à bout les 2 mètres de long des 60 000 milliards de cellules, on pourrait faire 150 000 fois le trajet Terre-Lune.
Qu'est-ce que la carte du génome ?
C'est la carte de tous les... C'est une carte qui a été trouvée par le Généton, qui est un des laboratoires de l'AFM, et qui permet de... qui référence tous les gènes qui sont dans l'ADN.
Combien de gènes différents existent-ils ?
Il y en a à peu près 20 000. À peu près 20 000 gènes différents.
Où sont situés les gènes malades ?
Ben, tous les gènes sont situés dans l'ADN et les gènes malades sont situés dans l'ADN.
Et où sont situés les gènes ?
Et dans l'ADN.
Ah, pardon. Est-ce que les gènes malades ont été identifiés pour toutes les myopathies ?
Non, pas du tout. Il y en a encore pour lesquels on recherche le gène. On a identifié la maladie, mais on ne sait pas sur quel gène ça se situe et quel est l'élément qui le détermine. Bon, on avance de plus en plus, on en découvre de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de moyens.
Combien de centres de recherche et de production ont été créés pour le développement de thérapies innovantes ? Comment se nomment-ils ?
Alors, on a trois centres qui dépendent complètement de l'AFM. C'est le Généton. Le Généton, c'est le premier qui a été créé. C'est au Généton qu'a été découverte la carte du génome. Il y a l'Institut de myologie qui travaille essentiellement sur les muscles, sur les maladies musculaires. Et il y a le laboratoire ISTEM qui, lui, travaille plutôt sur les cellules souches. Ce sont les trois. Et parallèlement à ces trois laboratoires, depuis quelques années. Il y a un il y a une usine qui fabrique, c'est la seule usine créée par une association, qui fabrique des, des médicaments. Les parents, quand ils avaient créé l'AFM, avaient dit c'était promis de trouver des médicaments. Et ce premier laboratoire qui a été créé pour les maladies génétiques, pour des médicaments de maladies génétiques, ils l'ont appelé hyposkésie, qui veut dire promesse en grec.
En ce qui concerne les avancées de la recherche, deux thérapies existaient. Quelles sont-elles ?
Alors, il y a la thérapie génique et la thérapie cellulaire.
Quelle différence existe-t-il entre ces deux thérapies ?
Alors, la thérapie génique consiste à modifier de l'ADN du malade en allant remplacer le gène malade par un gène sain. La thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules saines, à apporter des cellules saines à la place de cellules malades.
Les laboratoires de recherche manquent cruellement d'argent. Pourquoi est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ne se lancent pas dans la recherche sur ces maladies rares ?
Je vais prendre un exemple. Si un laboratoire il a le choix entre fabriquer ou faire de la recherche sur un médicament comme le Doliprane que tout le monde a pris au moins une fois dans sa vie et puis même sûrement plus d'une fois, et qui va lui rapporter beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de malades et qui va lui rapporter beaucoup d'argent, ou faire de la recherche sur une maladie où la recherche va coûter excessivement cher parce que ces thérapies innovantes coûtent très cher et il y a très peu de malades, il va choisir naturellement celui qui va lui rapporter le plus parce que le but d'un laboratoire, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est parce que ces maladies génétiques ne sont pas assez rentables qui s'intéressent peu. Mais ça évolue doucement parce qu'en fait, on a fait tellement d'avancées maintenant depuis que le Téléthon existe. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites sur ces maladies rares que maintenant on arrive à avoir des retombées sur des maladies qui ne sont plus rares. Vous avez peut-être entendu parler de la DMLA. Vous connaissez la DMLA ? Vous avez vu des pubs à la télévision ? C'est une pub, vous savez, où on vous dit, si vous voyez le trait qui s'adresse aux personnes âgées, si vous voyez le trait qui fait des zigzags, ou si vous voyez un rond au milieu, c'est une maladie qui touche les yeux. C'est une maladie pour laquelle on n'a pas de remède. On ne sait pas encore quand, mais on sait que la thérapie génique ou la thérapie cellulaire vont permettre de soigner cette maladie. Et là, il y a beaucoup plus de malades dans ces maladies-là. Donc les laboratoires commencent à s'intéresser à ces techniques-là, parce qu'au départ, ils disaient la thérapie génique, la thérapie cellulaire, ça ne marchera jamais. Maintenant, on sait que ça marche, donc les laboratoires commencent à s'y intéresser.
Pour quelles maladies des traitements par thérapie génique ont été mis au point ?
Les bébés bulles, non, c'est pas de la thérapie génique, c'est de la thérapie cellulaire. Thérapie génique. C'est la thérapie des. La myotrophie spinale, certaines myopathies, la myopathie tubulaire et l'amaurose de Leber. Moi, c'est des noms de maladies qui me font peur. Je préfère j'aime pas les noms de maladies, ils me font aussi peur que la maladie elle-même. Alors.
Nous remercions M. Alberto d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Nous laissons maintenant la parole à Mme Collat et M. Ducrot, qui témoignent en tant que personnes atteintes de maladies génétiques rares.
Madame Collat et Monsieur Ducrot, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 49 ans, j'ai commencé à ressentir des symptômes de la maladie à 47 ans. C'est la maladie de Steinert, dont Monsieur Alberto a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est dans une des maladies les plus répandues.
Bonjour, moi je suis Franck Ducrot. Alors, je suis atteint d'une dysferlinopathie, c'est une myopathie des ceintures. ceinture scapulaire et ceinture pelvienne. Voilà.
D'accord. Est-ce que c'est des maladies génétiques ?
Génétiques, oui.
Moi, oui.
Moi aussi.
Et est-ce qu'elles sont contagieuses ?
Pas du tout.
Non, non.
D'accord. Comment avez-vous su que vous aviez cette maladie ?
J'avais plus d'équilibre, je faisais beaucoup de chutes, j'étais danseuse et je ne pouvais plus danser, donc j'ai vu un neurologue qui a décelé quasiment aussitôt la maladie, et après on a fait un test génique et c'était ça.
Moi, suite à une prise de sang, on a remarqué que j'avais des CPK qui étaient très élevés. CPK, c'est tout ce qui est... Pas CPK, pardon. Transaminase du foie qui était très élevée. Et suite à ça, j'ai fait des biopsies musculaires qui ont décelé après la maladie.
À quel âge votre maladie s'est-elle déclarée ?
Moi, j'avais à peu près... les premières prises de sang, j'avais une vingtaine d'années. Et après la maladie, le temps d'avoir les examens, les résultats, j'avais une trentaine d'années à peu près.
Effective, avec des gros symptômes, 47 ans. Sinon, je sais depuis 2017, donc 5 ans.
Aviez-vous un problème de santé avant ?
Pas du tout.
Moi, je suis juste asthmatique, c'est tout.
Quelles les parties du corps sont atteintes par la maladie ?
Pour ce qui est de sténète, c'est les muscles, donc le cœur, les poumons, les cheveux, les yeux, le système digestif. Enfin, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de symptômes.
Et moi, c'est ceinture pelvienne, c'est-à-dire le dos, et scapulaire, tout ce qui est épaule, les bras, la clavicule, le dos.
Quels sont vos symptômes ?
J'ai pas de symptômes particuliers. Bon, bah, des fois, je perds l'équilibre, je tombe, mais à part ça, c'est tout.
J'arrive encore à marcher. Parfois, pas trop. Parfois, j'ai trop mal pour me lever. Parfois, je peux pas danser parce que je souffre trop. Mais en général, ça va.
Avez-vous des douleurs ?
Oui.
Non, moi, j'ai pas de douleurs du tout.
Existe-t-il un traitement pour votre maladie ?
Malheureusement, non.
Non plus.
C'est en test.
De quels soins bénéficiez-vous et qui vous soulage ?
La kinésithérapie. Je fais aussi de la danse, de l'aquagym, de la spéléologie. Donc je fais beaucoup de sport. C'est ce qui me maintient valide. Le bain aussi. Je crois que le plus bénéfique, c'est un bon bain chaud, en fait.
Moi, je fais des séances de kiné 3 fois par semaine. C'est tout.
Est-ce que vous avez accepté votre maladie facilement ? Comment avez-vous réagi ?
Moi, je l'ai tellement... En fait, je mettais un mot sur mes chutes. Donc, j'ai compris au moins pourquoi je tombais et je l'ai appris à mon ami, mais comme si j'avais une bronchite, en fait. Donc, pour lui, ça a été plus un choc que pour moi.
Moi, franchement, je m'en rappelle plus comment je l'ai pris, comment je sais plus du tout. Je peux pas vous dire.
Travaillez-vous toujours ?
Tu veux dire un travail rémunéré ?
Oui et non.
Alors rémunéré, non. Par contre, je suis membre de la FM Téléthon. Je suis présidente de la copropriété de mon appartement, enfin de mon immeuble. J'encadre pour la spéléologie. Je fais de la danse. Donc je travaille pas, mais je suis bien occupée.
Non, moi je ne travaille plus. Terminé. Mais comme Karine, je suis bénévole à l'AFM Téléthon depuis 2017.
Et quel était votre métier avant la maladie ?
J'étais danseuse et assistante dentaire parce que intermittent du spectacle, on travaille pas tout le temps. Et assistante dentaire, il en manquait, donc j'arrivais toujours à combler mes vides par ce travail.
Et moi, j'étais ambulancier.
Madame Cola, pouvez-vous faire des pointes à la danse ?
Je peux toujours faire de la danse. Je ne peux pas faire de pointe puisque j'ai plus du tout de force dans le pied gauche. Pas beaucoup dans le pied droit. Je ne peux pas faire des tours sauf sur les talons puisque j'ai plus de force dans le bout du pied. Mais je peux toujours danser, oui.
Comme vous ne travaillez plus, bénéficiez-vous d'autres aides financières de l'État ?
Oui. Une partie de mes revenus, c'est la sécurité sociale. Et l'autre partie, comme j'étais assistante dentaire, je cotisais à la G2R, donc ils versent aussi une partie de mon salaire.
Monsieur Ducrot, dans quelle mesure la maladie a-t-elle changé votre quotidien ?
Bah, dans tout, je ne travaille plus, je ne fais plus de sport, voilà.
Et êtes-vous autonome dans la vie quotidienne ?
Pas surtout. Tout ce qui est, bon, bah, la vie quotidienne. Alors, à la maison, je bénéficie d'auxiliaires de vie pour m'aider pour mes tâches ménagères, pour la douche aussi.
Monsieur Ducrot, quels sont les aménagements mis en place pour surmonter votre handicap ?
Alors, comme je disais à l'instant, j'ai des auxiliaires de vie qui m'aident pour la douche. Et après, petit à petit, j'emménage mon appartement pour m'aider encore plus pour la douche, pour la toilette.
Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés à vous déplacer dans la rue ?
Avec le fauteuil électrique, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vrai que les accessibilités en ville n'est pas toujours terrible.
Madame Collat et Monsieur Ducrot, avez-vous des membres de votre famille atteints par cette maladie ?
Probablement parce que c'est génétique, mais personne n'a souhaité faire le test, donc je ne sais pas.
D'accord. Pour ma part, non, il n'y a personne qui est atteint de ma maladie.
Pouvez-vous avoir des enfants ? Et si oui, où vous en avez déjà ?
Alors moi, oui, j'ai un fils de 18 ans, il n'est pas malade, et tout va bien pour lui.
D'accord.
Malheureusement, je n'ai pas d'enfant, mais il aurait eu 50% de risque d'avoir une pathologie, donc c'est peut-être mieux ainsi.
Êtes-vous membre de l'AFM ?
Oui, moi je suis membre de l'AFM, comme Karine aussi, depuis 2017 pour ma part.
Moi aussi, 2017.
Quelles sont vos missions à l'AFM ?
Alors moi je m'occupe de toutes les des commissions d'accessibilité de la ville d'Indre-et-Loire.
Je m'occupe du spectacle de danse qui a lieu au moment du Téléthon. C'est un spectacle diversifié, toutes sortes de danses différentes. On travaille avec entre 9 et 10 écoles qui font leur chorégraphie et je fais la mise en scène.
Est-ce que c'est compliqué de vivre avec un handicap ?
Oui, bien sûr, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, malheureusement, on fait avec.
Voilà, on fait avec.
Mais est-ce que votre espérance de vie, ou plutôt votre maladie, affecte votre espérance de vie ?
Je pense que si on est bien suivi par un cardiologue, un pneumologue, ça peut déjà nous sauver.
Oui.
Si vous êtes guéri, quelle est la première chose que vous feriez ?
Je danse, je cours, je nage.
Je fais tout ce que j'ai pas pu faire avant.
Avez-vous des projets pour l'avenir ? Si oui, lesquels ?
Oh ben les vacances, oui. Pour l'avenir à long terme, pas plus que ça, non. Oui, des challenges. Faire du saut à l'élastique, faire de l'acrobranche, enfin des choses...
Des choses impossibles, pour le moment.
Pour lesquelles on me dit que c'est pas possible, mais j'ai de la volonté, j'aime les challenges.
Moi, je sais pas du tout. Je pense que je reprendrai le sport. Il y a un travail.
Nous remercions nos trois intervenants. Monsieur Alberto, pour toutes les informations fournies sur l'AFM Téléthon. Madame Collat et Monsieur Ducrot, pour leur témoignage sur leur vie avec la maladie.
Bon, donc je tiens à remercier également les trois intervenants pour avoir répondu à toutes nos questions. Et tous les élèves de la classe de 4e B qui se sont investis depuis le mois de septembre dans notre projet FM. Notre prochain rendez-vous, ça sera certainement la visite du Généthon au mois de décembre. Merci à tous.